Les Chroniques Littorales. Bonjour José-Manuel Lamarque.
Bonjour Laetitia Gaillet.
Donc, dans votre bibliothèque, il y a des BD sur la marine.
Ah bah, des BD mers et océans. Et voilà, une BD d'une longue série, celle de Jean-Yves Delitte. C'est un peintre de la marine belge. Il publie chez Glénat une saga, celle des grandes batailles navales. Alors, Trafalgar, la bataille de Jutland, Chesapeake, Lepante. Et aujourd'hui, la bataille navale de Norayang. C'est en Corée, Jean-Yves Delitte.
C'est au large des côtes de Corée et c'est une guerre qui oppose l'empire du Japon à l'empire de la Chine et le royaume de Corée. Et ça se passe à la fin du XVIe siècle où ces trois pays vont s'affronter dans une guerre relativement fratricide, j'arrive à le dire, en Corée même, sur la terre de Corée. C'est une guerre qui va durer plus ou moins 7 années avec des temps de paix, qui va se conclure par cette défaite pour la marine japonaise
de l'époque,
qui va se faire, comme on dit gentiment, laminer.
En gros, le Japon, il faut qu'il attaque la Chine, il demande aux Coréens de l'aider, mais les Coréens, ils y sont... va aider les Japonais, c'est peut-être pas bon, c'est mieux de se mettre du côté des Chinois.
C'est-à-dire qu'en réalité, la Corée se trouve entre deux grandes puissances,
voilà.
C'est pas quoi choisir, et puis il est mis devant le fait accompli, puisque finalement le Japon à l'époque prend le chemin plus court pour attaquer ce qui va devenir son ennemi, l'Empire de Chine, et le plus court est effectivement par le détroit de Tsushima, poser le pied en Corée, il envahit la Corée, et la Corée évidemment, qui au départ ne voulait pas prendre part au conflit, se trouve obligée de se défendre et d'appeler au secours son voisin relativement encombrant, qui est la Chine.
Ça vous a pris combien de temps au niveau de la recherche?
C'est assez compliqué parce que le problème c'est que les sources, cette bataille de Norayang, c'est beaucoup plus complexe et grâce entre particulier à l'auteur qui est le dessinateur dans cet ouvrage qui est K.A. qui est un coréen, et ben finalement il m'a aidé parce que lui finalement par la langue, par la facilité, il a pu me trouver certaines informations et il a pu même me contredire sur certaines affirmations que j'avais au départ, sur l'existence de certains navires, en me disant non attention, ce navire n'existait qu'à telle époque et effectivement la légende veut qu'on le reprend systématiquement dans les livres d'histoire comme le fameux bateau tortue, donc c'est toutes des choses assez intéressante et c'est une petite année de travail celui-là.
Quand on parle de l'Asie, on pense tout de suite à la jonque, mais il n'y a pas que des jonques.
Non, la jonque est d'ailleurs un mot général pour dire navire quelque part, c'est le modèle, mais il y a le wazen, il y a le hateke bune, il y a une multitude de navires destinés au transport et comme à l'époque d'ailleurs même en Europe, ils se transforment le temps d'une guerre, donc on y ajoute au niveau de la muraille quelques palissades pour protéger l'équipage, c'est assez sommaire. Ce ne sont pas des navires destinés au combat proprement dit, même s'il y a des batailles navales, c'est des navires avant tout destinés au transport, donc on franchit la mer pour aller porter la guerre qui est avant tout terrestre.
Et les voiles ne sont pas toutes en toile?
Non. Généralement, on croit toujours, parce que les estampes chinoises ou japonaises nous font penser que c'est des jonques avec les fameuses voiles lattées, tout simplement. Mais il y a des fois des gréements mixtes, où on voit des voiles de toile, de lin ou de jonc, et des toiles lattées traditionnelles.
Pourquoi êtes-vous allé vers Norayang?
Parce que finalement, après, on fait la grande bataille navale. Alors, c'est vrai que d'un point de vue éditorial ou commercial, pour dire les choses simplement, c'est plus simple de parler d'une bataille Trafalgar, qui est connue de tous. Mais je me suis dit, mais après, on parle des grandes batailles navales. Il y en a eu de l'autre côté du monde, dans le Pacifique. Et Norayang est une bataille relativement importante, puisque toute l'imagerie qu'on a autour du samouraï, du shogunat, de l'empire du Japon, de l'empire de Chine, est assez intéressant à développer, de voir comment, là aussi, il y a eu des vraies confrontations assez importantes dans leur histoire.
Et vous nous offrez la possibilité de découvrir une de ces batailles navales qui, pour nous, sont inconnues.
Oui, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que l'amiral coréen qui meurt à la fin, hors Corée, c'est un héros national. Il y a des statues de lui. Et encore aujourd'hui, il est vénéré, on va dire, comme un dieu. Mais donc l'amiral Yi Sun-sui, qui réinvente les techniques d'attaque, c'est-à-dire qu'il refuse l'abordage. Sachant très bien que c'est périlleux un abordage, il préfère se contenter à ce qu'on appelle des tirs de bordée. Donc il construit un navire qui s'appelle le navire tortue, qui est en japonais Keibuk Seon. Et donc ce navire tortue, et c'est une casbah totalement fermée. Il est armé de canons. Alors les canons de l'époque sont pas comparables à nos canons européens, ils sont beaucoup moins performants, c'est plutôt des veuglards, des bombardes. Il s'approche des navires japonais, il tire à bout portant et puis s'éloigne, et ce qui lui permet chaque fois de prendre l'avantage sur les Japonais qui eux n'attendent qu'une chose, c'est de passer à l'abordage, mais on leur interdit.
Voilà, la bataille de Norayang par Jean-Yves Delitte, c'est chez Glénat. Juste un beau cadeau après tout pour la fin d'année.
Ah oui, puisqu'il reste encore 2 jours avant le premier de l'an. Merci José-Manuel Lamarque.
Merci Laetitia Gaillet.